Vous l'avez lu donc, Xavier, le déni de réalité est le point de départ et la conclusion de cet ouvrage. Or, pour qui s'intéresse aux technologies, cette idée fait immanquablement penser à ce qu'annonce en quelque sorte un prochain Graal des technologies contemporaines.
Oui, alors c'est annoncé comme la prochaine irruption technologique de notre quotidien, dans notre quotidien, et dont les fameux Pokémon Go ont été la première manifestation de masse, c'est la réalité virtuelle. Alors bon, en fait, enfin, deux secondes de pédagogie, on réunit sous ce terme de réalité virtuelle des choses qui sont assez différentes. Les Pokémon Go relèvent à proprement parler de la réalité augmentée, c'est-à-dire du fait d'ajouter à l'environnement physique un contenu numérique qui n'est perceptible que via l'écran, alors que la réalité virtuelle stricto sensu, c'est la création d'univers numériques dans lesquels on pénètre par des casques, ou autres capteurs d'ailleurs, mais des univers qui réagissent au mouvement de notre corps, ce qui donne l'impression d'y évoluer physiquement. Mais peu importe, dans tous les cas, il s'agit d'une pénétration plus forte encore entre le physique et le numérique. Et tout le monde, en ce moment, s'y intéresse. Les grands acteurs du numérique, en premier lieu, en mars 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, Facebook a dépensé 2 milliards de dollars, bon, c'est pas énorme pour Facebook, mais enfin quand même, pour acquérir le fabricant de casques Oculus Rift, et Daydream, la plateforme de réalité virtuelle de Google, a été annoncée ces derniers jours pour les semaines à venir. L'industrie du loisir s'y intéresse également, les jeux vidéo, mais pas seulement. Il paraît, hein, j'ai appris que les casinos travaillent à des programmes permettant de se croire en smoking à Las Vegas alors qu'on est en caleçon dans son canapé à la Courneuve. Sans compter la publicité, la presse, etc. Bref, c'est la croyance technologique du moment. La question que je me pose est donc la suivante. En quoi l'expansion des réalités virtuelles ou augmentées pourrait-elle modifier notre appréhension du fait social? Alors, a priori, on ne voit pas bien le rapport entre les deux. Ce n'est pas un casque Oculus Rift qui modifie les chiffres du chômage. Sauf que, dans notre appréhension du fait social, il y a aussi une part de sensible. Ce que l'on voit de la société et de notre environnement, comment ils agissent sur nous, ce qu'ils provoquent en nous. Or, parmi les usages de la réalité virtuelle, il y en a un qui est déjà en train de se développer, c'est la thérapie. Certains hôpitaux français et étrangers, à Marseille par exemple, en France, y ont recours pour soigner quelques phobies, la peur du vide, l'agoraphobie, la claustrophobie, ou alors même des syndromes post-traumatiques, ou même des malaises très légers, comme par exemple le mal de mer. Il s'agit pour ces médecins d'utiliser donc la réalité virtuelle comme technique de désensibilisation pour, d'une certaine manière, habituer le corps et le cerveau à réagir différemment dans le monde physique. Si cela fonctionne bien, et au dire des praticiens et des patients, ça fonctionne bien, même très bien, ça dit la puissance de la réalité virtuelle. Elle peut aider à appréhender différemment l'environnement. Serait-il possible d'en avoir un autre usage que thérapeutique? Ce que je veux dire par là, c'est s'il est possible de faire en sorte que grâce à la réalité virtuelle, quelqu'un ne ressente pas la foule comme une menace, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour que cette personne ressente différemment la vision de la pauvreté par exemple, ou de la richesse, pour changer ce que provoque en nous, en cette personne, les manifestations sensibles des grandes questions sociales. Bien sûr, dit comme ça, ça fait un peu Matrix, mais théoriquement, je ne vois pas ce qui l'empêche. C'est effrayant à certains égards, parce que ce ne sont plus les représentations sur lesquelles on agit, mais l'appréhension psychosensible, mais c'est fascinant à d'autres. Car on pourrait tout aussi bien imaginer que la réalité virtuelle, plutôt que d'accroître le déni de réalité, aide les sciences sociales à remplir ce que Marie Jaoda, que vous citez Louis Chauvel à la fin de votre livre, considère comme la mission principale des sciences sociales, rendre visibles les choses invisibles. Bref, on est au tout début de la réalité virtuelle, les possibles sont encore ouverts, c'est le moment de rêver.
Merci Xavier, on va voir si ça fait rêver Louis Chauvel.
Oui, enfin, disons qu'on peut avoir des perspectives de rêve et des perspectives évidemment de cauchemar. Les capacités d'aliénation de masse permises par la réalité virtuelle, nous pourrons tous vivre dans un appartement de la 5e avenue en face de Central Park grâce à la réalité virtuelle. Mais le top du top, c'est l'accès à la réalité, au matériel. C'est-à-dire que l'enseignement des sciences sociales d'aujourd'hui, c'est un retour de la réalité, c'est un néo-matérialisme et un néo-réalisme en sciences sociales. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le monde numérique où vous avez la possibilité de précipiter une masse, des millions de gens en très peu de temps. La télé l'avait permis il y a quelques années. Et maintenant, effectivement, les multimilliardaires de la côte ouest refusent que leurs enfants aient des tablettes.